Cos, une émission proposée par Michel Niaille.
Chers amis, bonjour. Nous reprenons notre étude de la loi de 1905 et aujourd'hui, rassurez-vous, nous allons en terminer avec le texte de cette loi puisque nous allons étudier le dernier article de cette loi après avoir vu l'ensemble des articles qui, ou la plupart, hein, qui organisent les cultes et leurs relations avec la société dite civile et avec, évidemment, la République et les autorités de la République. Ce dernier article, c'est l'article 43, qui est toujours applicable évidemment, et qui, comme dans bien des lois, prévoit d'abord que des règlements d'administration publique, donc des textes administratifs, viendront apporter les précisions nécessaires pour l'application des 42 articles de la loi. Et puis, il y a un alinéa 2, tout à fait intéressant, qui prévoit que des règlements d'administration publique viendront décider des particularités éventuellement de l'application de cette loi pour l'Algérie et les colonies. Ce vocabulaire qui fleure bon le début du XXe siècle nous rappelle qu'en effet, il faut bien se soucier de ces possessions françaises qui faisaient notre fierté au-delà des mers et qui représentaient quand même quelques millions de personnes dont il fallait assurer la conformité éventuellement à cette loi. Donc, c'était l'ouverture de possibles exceptions. Il faut dire que c'est tout à fait normal en droit qu'une loi prévoit qu'il y aura des cas qui seront gérés différemment de ce qu'elle prévoit pour des raisons que l'on peut expliquer. Et donc, en disant des règlements d'administration publique régleront l'application de cette loi en Algérie et dans les colonies, on ouvre la porte à des particularités, à des systèmes propres à tel ou tel territoire. Alors, il y a deux catégories, d'après ce que nous dit cet article 43, c'est l'Algérie et les colonies. Et pourtant, il y a une troisième catégorie qu'il faudrait pouvoir étudier, mais qui n'est pas dans la loi, et qui est l'Alsace-Moselle. Alors, je voudrais d'abord commencer par cette exception qui n'est pas dans la loi, avant d'étudier les exceptions possibles, l'Algérie et les colonies. Premièrement, donc d'abord, la loi doit se préoccuper, mais elle ne le dit pas, de ce qui se passe en Alsace-Moselle. Pourquoi elle ne le dit pas? Pour une raison bien simple, c'est qu'en 1905, l'Alsace-Moselle n'est pas française, elle est allemande. Vous savez que depuis que nous avons perdu en trois jours la guerre de 1870, l'Alsace-Moselle est devenue allemande. Elle a été intégrée dans le nouveau Reich allemand, et elle constitue un territoire de l'Inde allemand, comme le sont la Saxe, la Bavière et le Brandebourg, et bien d'autres territoires allemands. Et comme tel, l'Alsace-Moselle bénéficie, d'après le droit allemand, d'une sorte de particularité, d'une autonomie, comme dans tout système fédéral, où un petit parlement qui siège à Strasbourg peut, en dehors de la législation allemande, apporter sa propre contribution avec des règles spécifiques aux Alsaciens. Et ainsi se constitue ce qu'on appellera un droit local, qui est à la fois du droit allemand et du droit fait par des élus alsaciens mosellans, et qui va constituer une sorte de système propre qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec le système français. Alors évidemment, bien évidemment, cette loi de 1905 ne peut pas être appliquée à un territoire qui est désormais allemand. Cela va durer de 1870 à 1917, et évidemment la victoire en 1917 des Alliés, fait que la France récupère l'Alsace-Moselle. Et elle la récupère en l'assurant que cependant on tiendra compte de ses particularités et donc on dit bien qu'un certain nombre de règles ne seront pas immédiatement applicables, dont la fameuse loi de 1905. Au fond, il est urgent d'attendre, on verra une entrée progressive, un retour progressif de l'Alsace dans le giron français. Ça va durer jusqu'en 1940. Et là, en 1940, répétition de l'histoire, l'Alsace-Moselle redevient allemande pour 4 ans, jusqu'en 1944. De nouveau, géré par du droit allemand, qui est d'ailleurs du droit nazi, et qui d'ailleurs enlève dans le droit alsacien un certain nombre de choses, dont notamment la liberté de culte. Et c'est très intéressant de voir que la question se repose en 44-45, lors de la libération de l'Alsace-Moselle par les troupes françaises, américaines et anglaises. Et on voit bien que là, de nouveau, ce retour dans la mère patrie va s'effectuer avec toute la prudence voulue. Rien n'est pressé. Vous allez conserver pour le moment vos règles particulières. Et puis, progressivement, on entrera dans la législation française. Il faut dire que c'est constitué au long de l'histoire, ça date de Louis XIV, hein, quand l'Alsace-Moselle devient, par la force des armes françaises, c'est perpétué cette idée de particularisme de cette province, un particularisme auquel les Alsaciens-Mosellans sont très attachés, d'ailleurs plus les Alsaciens par certains côtés que les Mosellans. Et dès lors, au fond, il y a une espèce de situation sur laquelle on ne dit pas grand-chose, qui est un non-dit. On accepte le particularisme en disant que cependant, on verra bien progressivement l'intégration de règles nouvelles, mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. Et on voit donc se constitue en Alsace-Moselle un ensemble juridique qu'on appelle le droit local. Ce droit local, il représente un ensemble de règles très différentes des règles françaises, héritées soit de la domination allemande, soit du droit qu'avait pu produire la province elle-même depuis quelquefois des siècles. Alors, je vous donne quelques exemples. Le droit des associations en Alsace-Moselle n'est pas celui de la loi 1901, par définition, à l'époque où l'Alsace n'était pas française, et que pour créer une association en Alsace, il faut que vous ayez l'autorisation de l'administration. Ce qui est inconstitutionnel dans la France de l'intérieur, où au nom de la liberté d'association, vous ne pouvez pas vous heurter à refus de l'administration de créer telle ou telle association. De même, le droit foncier, le droit de la terre, d'une région très rurale, est particulier, et les Alsaciens sont très attachés à ce droit foncier. De même, il y a, ce qu'on ignore, une sécurité sociale propre à l'Alsace, jouant sur les équilibres démographiques qui sont pas les mêmes en Alsace que dans le reste de la France dite de l'intérieur. Et même le droit, par exemple, qui est quelquefois à l'origine d'un droit coutumier sur l'artisanat, est très particulier par rapport au droit français. Le droit de la chasse également est un droit qui remonte à la nuit des temps et qui n'a rien à voir avec le droit français. Donc, même les jours fériés, vous savez qu'il y a 2 jours fériés de plus en Alsace-Moselle, qui sont le vendredi saint et le 26 décembre, le lendemain de la Noël, qui est une vieille tradition allemande, toujours respectée d'ailleurs dans l'État fédéral allemand. Donc on voit bien que le droit local, c'est un ensemble de dispositions un peu disparates, qui sont héritées de l'histoire et auxquelles quelquefois les Alsaciens sont très attachés. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et il y a, à côté de ce droit local, l'application d'un droit ecclésiastique particulier qui date de Napoléon Ier, ce qu'on a appelé, et que je vous avais expliqué, le Concordat. Mais n'oubliez pas, le Concordat, il ne concerne, dans la prévision qu'en avait fait Napoléon, il ne concerne que 4 cultes, le culte catholique, le culte réformé, le culte luthérien et le culte israélien, ou israélite plutôt, pardon. Et donc, au-delà de ces 4 cultes, d'autres cultes qui sont nés depuis n'appartiennent pas au Concordat et doivent être régis comme de simples associations sans aucun privilège. C'est notamment le cas de l'Église protestante évangélique qui n'entre pas dans le Concordat. Évidemment, c'est très différent parce que les 4 cultes qui entrent dans le Concordat sont non simplement des cultes publics, c'est-à-dire qui bénéficient des avantages de cette présence officielle du culte dans les cérémonies, mais les bâtiments sont entretenus évidemment par la République pour l'Alsace-Moselle, et les ministres du culte, les évêques et les curés, les pasteurs et présidents de région et les rabbins sont des fonctionnaires, pas tout à fait, des agents publics rémunérés par l'État. Et il y a un budget des cultes auquel, d'ailleurs, avec nos impôts, nous contribuons sans qu'on nous l'ait demandé. Et donc, c'est un système tout à fait dérogatoire et très particulier. Alors, on peut être un peu étonné de voir qu'encore en 2021, il y a dans la République française un territoire qui n'obéit pas, disons, aux règles de tout le reste de ce qu'on appelle en Alsace la France de l'intérieur. Il y avait eu des tentatives, notamment Édouard Herriot dans les années 20, qui avait voulu rayer toutes ces particularités, mais il n'a pas réussi. Et les quelques voix qui se sont levées un peu timides depuis 1945 ont été vite oubliées. Et au fond, avec l'Institut de droit local alsacien, se maintient en liaison avec le gouvernement français une sorte de situation qui ne permet pas de penser toujours la fin de ce système particulier. De sorte que si la France est indivisible, elle n'est pas une. Là aussi, je voudrais corriger cette formule de 1792, la République une et indivisible n'est plus d'actualité. La Constitution dit bien que la France est indivisible, mais pas une. Ça veut dire que sur le même territoire, il peut y avoir des règles différentes. Eh bien, simplement, le Conseil constitutionnel a essayé d'enfermer dans des limites un peu plus étroites ce particularisme en disant que tant que le Parlement n'avait pas décidé par une nouvelle loi de réintégrer l'Alsace-Moselle dans le système français, lui ne pouvait rien faire, il ne peut pas remplacer le Parlement, et que donc on est obligé d'appliquer cette situation dérogatoire, mais on ne peut pas l'étendre. Donc on la conserve, mais elle ne peut pas être étendue. Et curiosité, il y a des règles qui depuis ont été votées par le Parlement français, applicables évidemment en Alsace-Moselle, alors que c'est en contradiction avec, entre guillemets, les libertés locales. Je prends l'exemple de la loi de 2004 sur l'interdiction dans les écoles publiques du port par les élèves de signes religieux. Cette loi de 2004 est applicable à l'Alsace, mais c'est quand même un peu curieux, puisque en Alsace, dans les établissements publics, les collèges et les lycées, les écoles primaires, les collèges et les lycées, l'enseignement de la religion, comme on dit, est obligatoire, est une des matières du programme, et que pour ne pas suivre ces cours, il faut demander une dispense. Alors aujourd'hui, on a un peu modifié, après de longues négociations, on n'a pas besoin de demander une dispense, si on ne s'y inscrit pas, c'est qu'on ne veut pas bénéficier de ce cours, puisqu'il y a un nombre d'élèves de plus en plus réduit qui participent à ce qu'on appelle, comme en Allemagne, les cours de religion. Et d'ailleurs, les églises qui ont bien vu le dépérissement de ce type d'intervention tente d'organiser des cours œcuméniques ou du catholicisme à l'islam et jusqu'au bouddhisme. On apprendrait aux élèves les différentes religions. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à une époque récente, et ça continue d'exister quelquefois, les parents qui ne veulent pas que leurs enfants assistent à ces cours de religion doivent demander une dispense. Donc c'est quand même très très curieux d'avoir une république qui accepte que sur son sol, une partie de ses citoyens obéissent à des règles différentes. C'est donc le cas de l'Alsace-Moselle, cette exception inconnue dans la loi de 1905 et pourtant toujours vivante. Après les flonflons de la fête alsacienne, dans la pure tradition des valses de l'Est et du Nord, nous allons aborder alors concrètement ce que l'article 43 nous dit dans l'alinéa 2, la situation de l'Algérie et des colonies. Alors, on distingue bien l'Algérie et les colonies, parce que l'Algérie est départementalisée du temps de la colonisation. Elle est l'objet d'ailleurs d'un découpage en trois départements, et le nord découpé en deux départements, et puis tout le sud qui est un département très particulier où l'armée est en fait la seule autorité véritable. Donc l'Algérie d'une part, qui est fictivement un département français où la loi française s'applique, et puisqu'on appelle joliment les colonies, alors c'était essentiellement les colonies africaines, mais aussi les colonies en Océanie, les colonies dans l'Atlantique, bref, on va le voir, tout un tas de territoires qui dépendaient pour des raisons historiques du gouvernement français et qui avaient plus ou moins hérité du droit français avec des particularismes. Alors, commençons par l'Algérie et les territoires africains. Alors, les territoires africains, eux, ils sont soumis à une vieille règle qui était, sauf dans certains lieux, je pense au régime particulier de la ville de Dakar, qui très tôt devient une ville sur le modèle des cités républicaines de la métropole, et dans un régime vraiment pas simplement colonialiste, mais archaïque. L'Algérie, c'est un peu différent. D'abord, on l'a départementalisée, et puis on a vécu sur cette idée que l'Algérie, c'était la France, ce qui a malheureusement été très lourd à porter au moment de la guerre d'indépendance. Pour les territoires africains, on ne se préoccupait pas de dire que c'était la France, même si officiellement il y avait le drapeau français, on appliquait quelques règles françaises, mais on avait maintenu largement des particularismes qui en faisaient des territoires à part. Alors parlons de l'Algérie. Eh bien, théoriquement, l'Algérie se voit appliquer la loi de 1905. Il n'y a jamais eu de règle spéciale pour déterminer que l'Algérie obéirait à un régime spécial, et c'était dans la logique de l'idée que c'était des départements français. N'oublions pas que c'était une colonie de peuplement avec une forte présence française, ou en tout cas même européenne. Il y avait des Italiens, des Espagnols, depuis naturalisés, et même une quatrième, si je veux dire, nation, on m'excusera d'utiliser ce terme, les Juifs, qui vont, vous allez le voir, avoir un régime à part en Algérie. Et donc, dans ce système-là, très républicain, marqué notamment par des vagues d'immigrants qui venaient de ce que la métropole refluait du temps du Second Empire, puis des communards de 1871, on oublie qu'il y avait un peuplement de petits peuples d'origine française, métropolitaine, qui étaient souvent très à gauche, d'anciens révolutionnaires. Et donc, on vit théoriquement dans la République française. Mais évidemment, la situation concrète, réelle, et pas la situation de la République française, c'est une situation coloniale. N'oubliez pas qu'en 1962, quand l'Algérie va devenir indépendante, un dixième de la population est d'origine française et métropolitaine, et neuf dixièmes sont constitués par ce qu'on appelle les Arabes, c'est-à-dire les Algériens. Alors, théoriquement, la loi de 1905 s'applique, séparation des églises de l'État. Ah oui, mais on a bien besoin de fermer les yeux quand même sur des particularités. Pour d'abord une première raison, c'est que c'est bien commode que les églises, et notamment l'Église catholique, par le biais de ses missions, assurent un certain nombre d'activités dont la métropole n'aura plus à se soucier, notamment les écoles et les hôpitaux. Ce sera vrai d'ailleurs également dans l'Afrique dite noire. Au fond, on ferme les yeux sur le fait que des congrégations vont avoir une place considérable qu'elles n'ont plus dans la France métropolitaine et vont assurer quasiment des services publics, même si existe évidemment l'école de la République, au moins dans les grands centres, mais bien souvent encore doublée par des écoles religieuses et dans les campagnes encore plus. Donc, malgré cette qualification de département français, l'Algérie n'est pas réellement sur le modèle métropolitain. On a d'ailleurs fait une place à part aux Juifs, puisqu'ils ont obtenu ipso facto, à la fin du XIXe siècle, la nationalité française et la citoyenneté, ce que n'auront jamais le gros des Algériens d'origine musulmane. Seule une petite partie de musulmans dits éduqués va pouvoir bénéficier de la citoyenneté française. Donc on a géré en découpant en morceaux finalement cette population et on comprend que dès lors, la loi de 1905 ne va pas s'appliquer. On se soucie pas beaucoup de savoir ce que les catholiques et les protestants ou les juifs vont faire. On leur fait confiance. On aime bien qu'ils s'occupent d'ailleurs de quasi-service public à propos de l'enseignement et de la santé. En revanche, pour les musulmans, on voudrait bien savoir ce qui se passe dans les mosquées. Et donc, on aimerait bien savoir ce que disent les imams dans leurs prêches. On aimerait bien savoir ce que les biens habous recouvrent, c'est-à-dire ces biens qui sont mis à part par la volonté d'un donateur pour servir à une œuvre pie. Et dès lors, on a envie et la volonté de contrôler ce qui se fait. On oublie que, par exemple, les prêches étaient transmis au gouverneur général avant le vendredi, de sorte qu'on puisse contrôler que ce que dira l'imam n'est pas contraire aux intérêts français. Dans ces conditions-là, la loi de 1905, évidemment, ne s'applique pas. Malgré qu'on ait affirmé la liberté de culte, il n'y a pas véritablement liberté de culte, mais il y a contrôle. C'est aussi vrai, mais sur un mode différent pour les colonies africaines de l'Afrique noire, où les missions et les congrégations ont une place considérable dans l'école et dans la santé, autant de moins à faire pour la République, et où on contrôle plus ou moins, quand on le peut, notamment les confréries musulmanes dans l'Afrique de l'Ouest, qui sont très très fortes, et je pense notamment au Sénégal. Et donc, vous voyez que l'Algérie, même si elle n'est pas citée comme une exception, on verra comment s'applique la loi, dit l'article 43, alinéa 2, est une exception, finalement, à ce territoire législatif français. Et on va pouvoir maintenir une situation jusqu'en 1962 qui fait que la séparation stricto sensu n'est pas appliquée. Terminons maintenant avec le deuxième élément de cet article 43, alinéa 2, l'Algérie et les colonies. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les colonies ? Ben, c'était tous les territoires qui, dispersés sur la terre entière, représentaient, je dirais, la puissance coloniale de la France qui s'enorgueillissait de ce que le drapeau flottait aussi bien du côté de l'Atlantique, des Antilles, que du côté de l'Océanie, jusqu'au lointain territoire de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie, et pas simplement dans ces territoires proches qu'étaient l'Algérie ou les colonies africaines. Qu'advient-il de ces territoires dispersés, de ce qu'on appelait les miettes de l'Empire, qui ont vécu jusqu'en 1946 dans un régime quasiment colonial? Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, où on applique des règles qui nous paraissent impensables aujourd'hui. Sachez qu'à Nouméa, les Kanaks n'avaient pas le droit de passer la nuit. Donc, comme au Moyen-Âge, on fermait les portes de la ville la nuit, les Kanaks étaient obligés d'aller dormir à l'extérieur et à l'intérieur de la ville dormaient les Français de souche, les immigrants, on pourrait dire, et ceux qui sont nés sur le territoire et qu'on va appeler par dérision un peu les caldoches. Et donc, on voit bien que le régime de la loi de 1905 va connaître des aménagements, alors là, pour le coup, extrêmement importants. Aménagements généraux, qui sont dus à ce qu'on appelle les décrets Mandel. Mandel était un ministre de la Troisième République qui, en 1936, va faire adopter une série de décrets qui gèrent la question des colonies en général et plus spécialement de l'application de la loi sur les églises. Et les décrets Mandel sont autant d'exceptions par rapport à la loi de 1905 qu'il y a de territoires particuliers. Alors, je mets à part, et vous avez apprécié la musique zouk des Antilles, je mets à part les Antilles et la Réunion, pour lesquelles ce sont de vieilles colonies, la loi de 1905 est applicable. Alors, vous allez voir, c'est quand même un peu particulier. N'oubliez pas que les Antilles sont françaises depuis Louis XIV. C'est-à-dire que les Antillais, y compris noirs, sont français bien avant les Savoyards, les Niçois et les Alsaciens. Et donc, ces territoires si lointains sont considérés comme faisant partie toujours de l'État en France et soumis à la législation française, à l'époque, la législation royale. C'est vrai également à La Réunion, qui est une île qui a été au départ l'île Bourbon et qui appartient à la couronne de France depuis le XVIIIe siècle. Dans ces deux territoires, la loi est applicable. Mais il faut ajouter que les traditions locales en modifient quelque peu l'application. Il y a une religiosité extrêmement forte aux Antilles ou à La Réunion qui font que les fêtes, notamment religieuses, sont extraordinairement grandioses par certains côtés. Tout le monde pense au carnaval, qui est d'abord une fête religieuse et où on voit bien que même les autres fêtes chrétiennes, je pense à Noël, je pense à Pâques, sont célébrées, sans parler des enterrements, de manière tout à fait extraordinaire. Et il faut ajouter pas simplement le culte chrétien, mais différents cultes qui ont des origines très anciennes et très curieuses, notamment les cultes hindouistes. Il ne faut pas oublier qu'à La Réunion, vous avez une partie de la population qui est hindouiste et vous avez dans toutes les localités des temples hindous qui nous étonneraient si on allait les visiter, parce que c'est tout à fait extraordinaire par rapport aux habitudes que nous avons. Je donne un petit exemple. Je suis allé présenter à La Réunion un jeu que j'avais créé où il s'agit de construire une ville et où il y a des monuments et des bâtiments de culte. Donc moi, j'avais prévu une église, une synagogue et une mosquée. Et les gosses m'ont dit « Eh monsieur, mais et où est le temple hindouiste ?» Ils cherchaient, parce que pour eux, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait un temple hindouiste. Donc, j'ai dû rajouter dans ce jeu le temple hindouiste et même un temple chinois. Donc, ça, c'est évident pour les enfants, ils avaient 8 à 10 ans, que ça faisait partie du vocabulaire urbain auquel ils étaient habitués. Donc, les Antilles et La Réunion, bien que soumises à la loi de 1905, ont un régime, j'allais dire, réel d'application des règles tout à fait particulière. Et là-dessus, La Réunion, vous le savez, est souvent célébrée comme un exemple de modération. L'islam y est très important. Moi, j'y étais il n'y a pas très très longtemps. Et vous avez l'appel à la prière par les haut-parleurs. Imaginez cela en métropole. Vous avez l'appel à la prière. J'y étais en période de Ramadan. Dans les rues, vous avez des grandes banderoles « Joyeux Ramadan pour tout le monde ». Et on se salue et on va à la mosquée. Et évidemment, il faut comprendre que les musulmans ne sont pas des immigrés. Ils sont déjà depuis l'origine dans ces îles et souvent, ils constituent une bonne partie de la bourgeoisie locale. On ne les traite pas comme des sortes d'immigrants avec une certaine condescendance. Donc, cette multireligiosité est considérée par les autorités administratives, d'ailleurs la préfecture, comme un modèle dont disent-ils, il pourrait s'inspirer la métropole. Donc voilà un premier exemple qui n'est pas une exception puisque la loi est applicable, mais dans les faits, il est clair que par exemple, l'application de la non-présence des signes religieux à l'école publique ne passe pas. Hein, on a toujours vu les jeunes filles porter un voile, qu'elles portent élégamment, sans problème, et personne ne dit rien, et rouler jeunesse. Alors, pour d'autres miettes de l'Empire, c'est quand même différent. Alors, je vous cite les quelques cas un peu inouïs. D'abord, la Guyane. La Guyane, évidemment, c'est un territoire sur le continent américain, est un territoire immense avec une petite population. Sachez qu'elle est toujours gérée par une ordonnance de Charles X de 1828 qui fait du catholicisme la religion d'État et qui entraîne que le culte catholique, c'est le seul reconnu, bénéficie de toutes les largesses de la métropole, que le clergé est entretenu par la métropole et que l'enseignement primaire est entièrement dévolu à l'Église catholique. Donc, ne s'y applique ni la loi de 1905, ni au fond les lois de 1880 sur l'école publique. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu des conflits et on est obligé encore, puisqu'on n'a jamais aboli cette fameuse ordonnance de Charles X de 1828, on est obligé d'appliquer un système qui est, il faut le dire, un peu aberrant. Mayotte, cette île un peu perdue du côté de Madagascar et de La Réunion d'ailleurs, Mayotte, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'en 2010, comporte une quasi-unanimité de population musulmane. 95% des Maorés sont musulmans et donc ils ont le choix entre être régis pour leur statut personnel, entre le statut personnel de la République, donc comme nous, comme vous et moi en France métropolitaine, ou le statut particulier et traditionnel musulman, avec tout ce que cela entraîne pour le mariage, pour les enfants, la filiation, pour les biens, etc. Évidemment, beaucoup choisissaient par tradition, par habitude, le système musulman. Et il y avait, pour gérer les problèmes qui pouvaient naître, des cadis, c'est-à-dire des juges musulmans, 17 cadis, qui étaient supervisés par un grand cadi qui était nommé par la République. Et donc, on avait, au nom de la République, l'application du droit musulman comme droit de l'État, comme droit de la République, si j'ose dire, qui est quand même une curiosité. Alors depuis, on a mis fin, vous voyez, en 2010, on a mis fin à ce système, il reste encore des cadis, mais ils n'ont qu'un rôle supplétif, j'allais dire, un rôle consultatif, ils ne peuvent plus prendre de décision. Désormais, on dirait, ben heureusement, c'est les juges de la République qui, en cas de problème sur les divorces, les mariages, les héritages, vont statuer, mais malgré cela, les cadis continuent d'être consultés et ils sont des médiateurs presque obligés dans la situation de Mayotte aujourd'hui. Et puis vous avez enfin les derniers confettis les plus lointains, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et la Polynésie. Là, il faut savoir qu'il y a une importance considérable des missions catholiques et protestantes, notamment en Nouvelle-Calédonie, et que les populations ont le choix de garder encore l'appartenance au statut personnel coutumier. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, vous avez la possibilité, si vous êtes Kanak d'origine, de choisir d'être régi soit par le droit civil, et donc de dépendre des tribunaux de la République, soit par ce qu'on appelle le statut personnel, qui est un statut coutumier Kanak, avec des autorités plus ou moins fabriqué quelquefois de chefs Kanak et de sortes de conseils qui vont gérer votre vie en cas de divorce, de changement de terre, etc. Et on voit comment se perpétue dans ces territoires-là une présence très forte des missions, notamment des missions protestantes, je l'ai dit, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Tahiti et également dans les autres territoires un peu dispersés autour de ces territoires si lointains et qui connaissent donc évidemment une situation tout à fait particulière qui n'est pas du tout celle de la loi de 1905, même si officiellement elle est applicable, mais on voit bien que les missions, par exemple en matière d'éducation, ont un rôle considérable dans la gestion de l'éducation des enfants dans ces territoires. Donc, j'en termine ainsi. La loi de 1905, qui prévoyait elle-même des possibilités d'exception, a été déjouée par le fait que la plus grosse exception, qui est l'Alsace-Moselle, n'entre pas dans le cadre de la loi, et que les autres, soit par l'avènement des indépendances, ont rendu historiques les situations antérieures, soit aujourd'hui, pour les fameuses 7 exceptions que constitue Saint-Pierre et Miquelon, dont je n'ai pas parlé, dans l'Atlantique Nord. N'oubliez pas qu'à Saint-Pierre et Miquelon, bon, c'est un tout petit territoire, mais enfin, l'Église catholique est Église d'État et la République continue à rémunérer l'évêque et les curés de Saint-Pierre et Miquelon. Donc, on a des exceptions très localisées, quelquefois incompréhensibles. Je pense à la Guyane, obéir encore à une ordonnance de Charles X, ça dépasse l'imagination, ou qui sont liées à des situations où les missions ont eu un rôle très important. Je pense à l'Océanie et je pense au régime, disons, de Mayotte ou de la Réunion et des Antilles, et qui font que donc la loi ne connaît pas l'application qu'elle pourrait avoir dans notre territoire. On a terminé ainsi avec l'étude mot par mot, si j'ose dire, presque, de la loi de 1905. Nous verrons les fois prochaines d'autres éléments qui se rattachent ou qui dépendent de la loi de 1905 et qui constituent les problèmes concrets auxquels nous sommes aujourd'hui affrontés en matière de liberté religieuse. Merci, à bientôt.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.